Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Vue générale sur les premiers siècles de l'Église. Au cours de ces entretiens, nous allons réfléchir ensemble sur un des plus grands événements de l'histoire chrétienne, le Concile de Nicée, qui s'est tenu au IVe siècle, en l'an 325, et dont nous fêtons cette année le 1700e anniversaire. Ce concile est le premier des conciles dits écuméniques, c'est-à-dire rassemblant l'ensemble des églises répandues dans toute la terre habitée, en grec oikoumene. À la différence des conciles locaux, les conciles écuméniques sont porteurs d'une autorité maximale dans l'Église. Ils peuvent se prononcer de manière définitive sur des points de la foi chrétienne. En termes techniques, ils peuvent énoncer des définitions dogmatiques. Les évêques réunis en concile écuménique, même s'ils ne représentent jamais la totalité arithmétique des évêques du monde, sont investis de cette autorité et de cette mission. Le dernier en date des conciles écuméniques, le 21e de la liste, est le concile Vatican II, qui s'est tenu de 1962 à 1965. La période qui a vu le premier concile écuménique est une époque de l'histoire européenne que les historiens contemporains appellent l'Antiquité tardive. Ils la font commencer soit à la fin du IIIe siècle, soit au début du IVe siècle de notre ère. Quelle que soit la datation qu'on adopte, c'est une période charnière. En amont de cette période, il y a l'Antiquité proprement dite, et en aval, il y aura ce que nous appelons le Moyen Âge. Les gens qui vivent à cette époque, dans nos actuels pays d'Europe, habitent un ensemble politique unifié, et même beaucoup plus unifié que ce que nous connaissons aujourd'hui. Cet ensemble politique, c'est l'Empire romain. Le pouvoir de Rome s'est constitué patiemment au cours des siècles. Les Romains dataient précisément la fondation de leur ville, et la date correspond à l'an 753 avant Jésus-Christ, selon notre manière de compter les années. Quand Jésus vient au monde, il y a donc 7 siècles et demi que l'Empire romain a commencé, et il a pratiquement atteint son extension maximale. Il englobe l'Angleterre actuelle, la Gaule, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie actuelle, tout le nord de l'Afrique, l'Égypte et bien sûr le pays de Jésus, qui est donc un pays sous régime d'occupation étrangère, comme on le voit dans les évangiles. Finalement, l'Empire romain, ce sont tous les territoires autour de la Méditerranée que les Romains appelaient pour cette raison « Mare Nostrum » en latin, « notre mer ». Au fur et à mesure que ce grand empire se constituait, des régimes politiques différents se succédaient, en partie pour s'adapter à cette croissance. Les Romains ont d'abord eu des rois, puis pendant un demi-millénaire, ils ont vécu en république, puis s'est mis en place un régime nouveau, avec à sa tête un empereur. Ce dernier régime, qui apparaît après Jules César, est essentiellement d'origine militaire, comme l'indique le mot « empereur », qui désigne à l'origine le général en chef victorieux. Il n'est donc pas étonnant qu'en pratique, ce soit souvent les soldats de l'armée romaine qui fassent et défassent les empereurs. C'est sous le règne du deuxième empereur, Tibère, que Jésus a été crucifié et ressuscité dans les années 30 de notre ère. Dans ce pays gigantesque, constitué d'une mosaïque de peuples, la fidélité à la religion romaine et la fidélité politique à l'empereur ne faisaient qu'un. De là viennent bien des accusations dirigées contre les chrétiens, qu'on accusait d'être de mauvais citoyens parce qu'ils refusaient de rendre un culte à l'empereur, ainsi que nous le rapportent les historiens de l'époque comme Suétone et Tacite. Ce dernier, Tacite, parle à propos de la foi des chrétiens d'une exécrable superstition, et il les accuse, je cite, de « haine contre le genre humain », en grec « misanthropie », autrement dit le refus de s'intégrer dans l'humanité commune qui obéit aux lois de la cité, lois inséparablement civiles et religieuses. À l'inverse, la civilisation grecque et romaine de ce temps se considérait comme sous le signe de la philanthropie, nous dirions aujourd'hui l'humanisme, l'art de vivre en bon citoyen. Les chrétiens, pendant presque 3 siècles, ont donc été persécutés, comme le peuple juif dont la première génération chrétienne est issue. Cependant, il ne faut pas imaginer une persécution continue et systématique. Il y avait des périodes parfois longues et des provinces de l'Empire où on pouvait profiter d'un régime de tolérance et des périodes et des lieux où la persécution reprenait tout à coup, en général quand on cherchait des boucs émissaires pour telle ou telle catastrophe qui venait de se produire. Aux accusations qui sont portées contre eux, des chrétiens cultivés tentaient de réagir par des écrits dans lesquels ils expliquaient qui était ce Dieu en qui ils croyaient et comment ils lui rendaient un culte. Les écrivains chrétiens de cette génération sont appelés les apologistes, d'un mot qui signifie « défendre ses opinions ». L'apologiste le plus célèbre au IIe siècle est saint Justin, un philosophe palestinien devenu chrétien. Il adresse son apologie directement à l'empereur, à qui il explique ce que croient et ce que font les chrétiens. L'empereur a-t-il lu l'apologie que lui avait adressée saint Justin ? Nous n'en savons rien, sinon que saint Justin est mort martyr. Mais nous possédons toujours ses écrits qui sont pour nous une source d'information très précieuse. C'est à lui que nous devons les descriptions les plus anciennes de la célébration du baptême et de l'Eucharistie. Dans les dernières décennies du IIIe siècle, l'Empire romain traverse des périodes de désordre et la persécution des chrétiens reprend sous l'empereur Dèce. En effet, pour renforcer l'unité politique autour de la religion traditionnelle, il ordonne à tous les citoyens de participer à un sacrifice général. Certains chrétiens cèdent à la pression, offrent le sacrifice et renient leur foi, mais beaucoup préfèrent mourir martyrs plutôt que de rendre un culte au dieu du paganisme. Le culte des chrétiens est officiellement interdit, on met à mort leur clergé et on les dépouille de leurs biens. Puis la persécution marque le pas, sans doute à cause du nombre toujours plus important de chrétiens dans l'Empire, et l'Église chrétienne peut continuer à s'organiser et à construire des lieux de culte. À cette même époque, l'Empire romain est dirigé par 4 empereurs, 2 Augustes et 2 César, la tétrarchie, pour pouvoir mieux faire face aux pressions extérieures qui finiront par en avoir raison 2 siècles plus tard. Ce système de 4 souverains se partageant le pouvoir durera une 40aine d'années, jusqu'à ce qu'un empereur dont nous aurons beaucoup à reparler y mette fin et règne seul à nouveau. Cet empereur a marqué profondément l'histoire universelle. Il s'appelle Constantin. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le début du IVe siècle est très sombre pour l'Église. Après une relative accalmie d'une 30aine d'années, elle va traverser la pire persécution de son histoire avec l'empereur Dioclétien. Cet empereur, qui est à l'origine du système des 4 empereurs, avait pourtant laissé les chrétiens relativement tranquilles pendant une 20aine d'années, mais à partir de l'an 303, il se déchaîne contre eux. Dans un contexte de menace extérieure, le pouvoir impérial devient de plus en plus autoritaire et n'hésite pas à emprisonner et torturer ceux qui le gênent. L'empereur se nomme lui-même « autocrator », qui a donné le mot « autocrate », et il exige qu'on lui rende un culte. Il ne peut donc entrer en conflit avec le dieu que les chrétiens appellent « pantocrator », dieu de l'univers, et qui demande qu'on se donne sans réserve à lui. Les décrets de persécution se succèdent, interdiction du culte, confiscation des livres et des vases sacrés, destruction des églises et de nouveau arrestation des membres du clergé qu'on essaie de faire apostasier, c'est-à-dire renier leur foi. C'est l'affrontement ouvert entre 2 conceptions du pouvoir, le pouvoir absolu du souverain terrestre, autocrator, et le règne de justice et de paix du souverain de l'univers, le pantocrator.